RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal, François Ballarin.
Un scrutin dans le calme, sans incident majeur, c'est ce qui ressort du premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie. 7 candidats se présentent, dont le président sortant Mohamed Ould Cher El Razouani. Les premiers résultats pourraient être connus aujourd'hui. Il y a tout juste 64 ans, la République démocratique du Congo accédait à l'indépendance, l'occasion pour Félix Tshisekedi de prendre la parole. Au cœur du discours du président congolais, l'actualité sécuritaire dans le Nord Kivu après la prise par les rebelles du M23 de la ville clé de Kanyabayonga. C'est un projet qui reprend corps du côté de la CDAO, celui d'une force en attente. Mais l'idée ne serait plus de rétablir de force l'ordre constitutionnel dans certains pays, mais bien de lutter contre le terrorisme. Enfin, ils rentrent du pèlerinage annuel à la Mecque avec le Covid dans leur bagage. Une vingtaine de cas détectés parmi les pèlerins de retour en Côte d'Ivoire. Contrairement à certains discours alarmistes sur les réseaux sociaux, les autorités sanitaires se veulent-elles rassurantes ? En Mauritanie, près de 2 millions de personnes étaient appelées à voter hier pour choisir leur président. 7 candidats sont donc en lice avec la possibilité pour les Mauritaniens de faire le choix d'une alternance ou bien de réélire le président sortant Mohamed Ould Cher El Razouani, candidat à un second mandat. Reportage au moment du dépouillement de Léa Lisa Vesteroff.
Il est 19h, la porte du bureau de vote numéro 2 se referme. Le dépouillement peut commencer. Avec des ciseaux, le couvercle de l'urne est décellé.
Vous êtes prêts ?
Sur les rideaux verts qui servaient d'isoloir, l'un après l'autre, les bulletins uniques sont dépliés. Le président du bureau lit à voix haute le nom du candidat choisi. Pour Fatimata, qui représente le candidat d'opposition du parti islamiste du Tawassoul, c'est une méthode efficace pour la fiabilité des résultats.
C'est un bon système et très facile à utiliser encore. On compte chaque bulletin et on note.
Pour le président du bureau de vote, Sidi Ali El Kassem, le système informatique cette année devrait permettre une meilleure transparence des résultats.
Bien sûr. Dès qu'on termine les PV, on va mettre tout, le nombre de votants, le nombre de bulletins en ligne, chaque candidat, combien il a eu. Après, on scanne le PV et on envoie ça au CENI central. Donc la procédure, c'est informatisée de A à Z.
Donc pour vous, pas de fraude possible ?
Non, je ne pense pas. Espérons aussi que le pays ait besoin de transparence et de tout ça, parce qu'on a vraiment souffré de ça.
Au final, plus de 3 heures de décompte, et dans ce centre de vote de banlieue où 2114 électeurs sont inscrits, l'opposant Biram Dahabed obtient le plus de voix, et chaque représentant de candidat repart avec une copie du procès-verbal. Léalisa Vesteroff, Nouakchott, RFI.
Au Sénégal, les députés devaient se réunir hier samedi pour un débat d'orientation budgétaire, mais le bureau de l'Assemblée nationale a finalement décidé d'annuler ce débat. Un nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs jours autour du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle agite la menace d'une motion de censure. En République démocratique du Congo, un conseil supérieur de défense réuni autour de Félix Tshisekedi ce samedi soir à Kinshasa. Il fait suite aux derniers événements dans le Nord Kivu et la prise vendredi de la ville de Kanyabayonga par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une percée significative qui ouvre l'accès aux villes du nord de la province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Et la prise de cette ville par les rebelles du M23 intervient alors que la République démocratique du Congo célèbre ce dimanche le 64e anniversaire de son indépendance. L'occasion pour Félix Tshisekedi de s'exprimer ce samedi soir. En plus de cette actualité sécuritaire, le président a également évoqué les questions socio-économiques, les précisions de Pascal Moulégois.
La situation sécuritaire dans l'Est du pays s'est imposée comme le thème central du discours du président. Félix Tshisekedi est revenu sur le Conseil supérieur de la défense convoqué quelques heures plus tôt au lendemain de la prise de Kanyabayonga par les rebelles du M23.
Ce qui se passe à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons. Des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays.
L'M23 à Kigali justifie la crise par les massacres supposés de populations randophones dans l'Est congolais. Un prétexte selon les présidents Tshisekedi.
Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement.
Le chef de l'État a évoqué la situation économique et sur ce point il s'est voulu optimiste. Les perspectives économiques restent favorables, a-t-il assuré, malgré l'inflation et la chute de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Le président s'est dit cependant conscient des difficultés sociales des Congolais.
J'instruis le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population.
Côté infrastructure, Félix Tshisekedi a dû compter sur son programme Minerai contre infrastructure conclu en 2008 avec les groupements d'entreprises chinoises et qui a été relancé après renégociation en début d'année. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Et à l'occasion des 64 ans de l'indépendance de la RDC, RFI vous propose une rencontre. Il a été parmi les premiers à croire au combat de Patrice Lumumba pour l'indépendance. Aujourd'hui âgé de 88 ans, Léon Kanga, ancien chef de section du parti politique MNC, fait partie des rares témoins encore en vie de cette époque. Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec lui sur le site RFI.fr, mais également notre application Pure Radio. En bref, au Soudan, en guerre contre l'armée depuis plus d'un an, les forces de soutien rapide du général Hamdan Daglo annoncent avoir pris le contrôle de la base de Singa dans la capitale de l'état de Sennar. Information confirmée à l'agence France Presse par des habitants sur place. Avec cette nouvelle percée, les paramilitaires resserrent donc l'étau autour de la ville de Port-Soudan dans l'est du pays. C'est dans cette ville, du bord de la mer Rouge, que l'armée, le gouvernement qui lui est fidèle, mais aussi l'ONU, ont pris leur quartier. Une force militaire en attente pour lutter contre le terrorisme. Un projet remis en avant par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest cette semaine à l'occasion de la réunion des ministres de la Défense et des Finances des pays de la CDAO dans la capitale nigérienne Abuja. Le point sur cette idée de force en attente avec notre correspondant régional Serge Daniel.
Pour la force régionale en attente, nouvelle version de configuration possible. Selon Mohamed Badarou Aboubakar, ministre nigérien de la Défense, l'une implique 5000 hommes, son coût 2,6 milliards de dollars par an. Seconde hypothèse, une force en attente composée de 1500 soldats. Pour fonctionner, il faudra trouver près de 500 millions de dollars chaque année. Le Nigeria, dont le chef de l'État est président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, insiste, le principal mandat de la force en attente ne sera plus le renversement des régimes issus des coups d'État, mais la lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dirigés par des putschistes et qui ont claqué la porte de la CDAO, sont invités à participer à cette force. Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, justifie cette décision. Je cite, « Bien que des pays sont sous sanctions, ils devraient être autorisés à participer aux réunions liées à la sécurité. » Fin de citation. Mais lors de cette importante réunion, les places de ces trois pays sont restées vides. Ils n'ont pas répondu présent. Serge Daniel, Lagos, RFI.
Le nord-est du Nigeria à nouveau en proie et théâtre d'attentats suicides, au moins 18 personnes tuées, des dizaines d'autres blessées dans plusieurs explosions ce samedi dans la ville de Gwoza dans l'état de Borno. Selon la police, un premier attentat suicide a visé un mariage. Une femme a déclenché ses explosifs au milieu des invités. Une attaque suivie d'autres sur le même mode opératoire. Au Rwanda, la campagne se poursuit pour les élections du 15 juillet prochain où le chef de l'État, Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, est candidat à sa réélection pour un quatrième mandat. Face à lui, deux candidats, le fondateur du Parti Vert Démocratique, le député Franck Habineza, seule voix critique du régime à avoir vu sa candidature validée par la commission électorale, et Philippe Mpayimana, candidat indépendant, peu connu du grand public. Il était en meeting ce samedi dans le district de Kamoni. Lucie Mouillot était sur place.
Devant une centaine de curieux réunis dans une rue du village de Rugalika, à moins d'une heure de Kigali, le candidat Philippe Mpayimana détaille le programme de sa campagne.
Pour le premier point, c'est protéger les acquis. Deuxième point, c'est réformer. Troisième point, c'est renforcer le rôle de la population. On a besoin de voir de nouveaux visages, on a besoin d'entendre ceux qui ne voient pas qu'est-ce que tel et tel autre candidat propose. C'est aussi pour mon pays que je souhaite ça.
Candidat indépendant non affilié à un parti, Philippe Payimana était inconnu du paysage politique rwandais avant sa première participation à une élection présidentielle en 2017. Un scrutin où il avait réuni moins d'1% des voix face au chef de l'État, Paul Kagame.
Je suis opposant à lui, ça ne me fait pas peur, mais dans le sens rwandais du terme. C'est l'opposition où chacun peut présenter sa position, la défendre. Sans cogner son prochain. Il fait partie de mes inspirateurs. Donc je sais ce que je peux acquérir de son expérience et ce que je peux ajouter.
La campagne électorale se poursuit au Rwanda pendant encore 2 semaines, à la fois pour la présidentielle et les législatives, avant l'ouverture du scrutin le 15 juillet prochain. Lucie Mouillot, de retour du district de Kamoni, RFI.
Le Covid-19 de retour en Côte d'Ivoire, une vingtaine de cas recensés par les autorités sanitaires parmi les pèlerins de retour à la Mecque vendredi. Aucun décès n'a été enregistré. Le ministère de la Santé, comme les épidémiologistes, se veulent rassurants. Alors que les discours alarmistes et faux circulent sur les réseaux sociaux, à Abidjan, les explications de notre correspondante Marine Janin.
Sur 619 pèlerins de retour d'Arabie Saoudite, 25 cas de Covid-19 ont été détectés par le dispositif de contrôle mis en place par les autorités sanitaires à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, soit 4% de cas positifs. Un taux inférieur au seuil de contrôle de la maladie, a précisé le ministère de la Santé. Mais depuis quelques jours, la rumeur circule sur les réseaux sociaux ivoiriens d'une épidémie du variant XBB, supposé être 5 fois plus dangereux que le variant Delta, avec un taux de mortalité supérieur. Une fausse information, assure le professeur Yaya Karamoko, virologue à l'université Nangia Brogoua. Il s'agit probablement plutôt du sous-variant KP2, déjà présent aux États-Unis depuis le mois de mars et en Europe et en Asie depuis le mois de mai. Le sous-variant KP2 ne présente pas une mortalité plus élevée que ses successeurs, estime le professeur Karamoko, pour qui la résurgence actuelle est, je cite, légère et sous contrôle. Le ministère de la Santé ivoirien recommande le dépistage en cas de symptômes, le respect des mesures barrières pour les malades et encourage les personnes à risque à se faire vacciner. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et puis on a appris le décès de la mère du roi Mohamed VI, Lala Latifa. Le palais royal marocain l'a annoncé ce samedi, âgée de 78 ans. Celle qui fut l'épouse du roi Hassan II était malade depuis plusieurs années. Mohamed VI se rendait régulièrement à son chevet à Paris où elle était soignée. Dans un communiqué, le palais royal évoque une profonde tristesse. C'est la fin de ce journal, cette édition à retrouver sur RFI.fr. La suite d'RFI Matin avec vous, Julien Coquelroem.
Merci François Ballarin, la suite est la fin à 7h40.